Pas très riche, me faire un cadeau à sa belle Aziza, dont il a été éperdument amoureux. Un collier en or massif le tend très bien. Otto me déclara « Eh, je crois que je vais le voler !» Je l'en dissuadais, à travers ce palindrome de syllabes. « Voler ça, 10 ans, dit, ça les vaut !»« Voler ça, 10 ans, dit, ça les vaut !»
Radio Libertaire 89,4 MHz, dessous de scène, magazine de créatures radiophoniques, ouverture comme à l'accoutumée avec un palindrome de Gérard Durand. Dessous de scène, magazine de créatures radiophoniques, ouverture aussi comme à l'accoutumée par quelques « je me souviens ». Je me souviens du clip de Didier Vampas, « Si j'avais le portefeuille de Manu Chao », on y voyait même Patrick Juvet, Jack Lang et même Gilbert Montagnier en photographe. Je me souviens de Bora Bora, de Yewene Yewene, de Boutros Boutros Ghali, de Miu Miu, de Baden Baden, de Yo-Yo Ma et de John John Kennedy, le fils de John qui est mort dans un accident d'avion. Je me souviens de Pinocchio et Mato, j'ai oublié en revanche le nom de scène de ces deux dames, qui avaient ouvert le tremplin théâtre rue des Trois Frères, dédié à la chanson, au théâtre et aussi au mime. Mais il fallait surtout pas leur parler de Pipe et du mime Marceau, ou en tout cas ne pas confondre. Je me souviens que quand nous allions courir au bois de Boulogne pour nous entraîner pour le baccalauréat, passant par la route de Longchamp, de la Longue Queue ou autre, Claude nous demandait à chaque fois de passer devant la stèle aux fusillés du 16 août 44 et de marquer une pause. En silence, il pleurait, même si aucun des noms n'était ceux de sa famille. Je me souviens de Jack Ralit, le maire de Gennevilliers, et des états généraux de la culture en 1987. La culture se porte bien, pourvu qu'on la sauve. C'était au TNP, j'y étais allé en voisin. Je me souviens de la mention enregistrée au château d'Hérouville sur des pochettes de disques, y compris des disques de stars américaines. Je me souviens de Marie, ciseaux à la main, feuilletant début décembre un gros catalogue de jouets du printemps riche en couleurs. Il n'y avait pas le moindre coin qui ne soit pas rouge, marron, vert ou tout coloré. Elle découpait même quelques chats en peluche pour la lettre au Père Noël de François, trop petit pour avoir le droit de manipuler des ciseaux. Je me souviens de cet un éléphant, mais oui, évidemment, il a une queue derrière, une autre part devant. Je me souviens de « L'ordre mon cul, la liberté m'habite », souscription pour l'édifice d'un monument aux policiers inconnus, « Dieu est-il immoral, beau comme une prison qui brûle, travaillez moi jamais ». Titre de livre tous vendus 10 francs dans la collection « L'esprit frappeur », passage d'Agorneau. Je me souviens que mon père avait réussi à acheter une copie officielle de la radioscopie de Maurice Fanon par Jacques Chancel dans une boutique de Radio France. Ou alors c'était encore l'ORTF. Peut-être 116 avenue du président Kennedy. À l'ouverture de l'émission et avant même le générique, une voix type FIP annonçait que, pour des questions de droit, les trois chansons faisant partie de l'interview étaient coupées après 10 secondes. Je ne me souviens pas trop s'il existe un univers parallèle dans lequel j'aurais réussi à séduire Valérie, la stagiaire d'anglais, quand j'étais moi stagiaire de maths au collège Jean Zé, malgré son refus. En 1986, un univers parallèle et dystopique dans lequel nous aurions deux enfants, un chien, un camping-car, deux assurances-vie, deux tentatives de divorce non abouties et déjà trois petits-enfants. Je me souviens qu'il n'y a jamais eu de 30 décembre 2011 aux îles Samoa pour ajustement de fuseau horaire. Je ne me souviens pas d'avoir prononcé ces expressions depuis 10 ans. En voiture Simone, en route mauvaise troupe, comme un lundi, ton père il est pas vitrier, grosso merdo, lundi c'est ravioli, t'es pas Fangio, porte nawak, c'est craignos, oh là c'est pas Gégène, je rentre et je te passe un coup de bigophone. Je me souviens de Christian ne viendra pas ce soir, il rêve. Je me souviens de donnez-moi l'adresse d'un nuage, j'ai une lettre pour lui.
Dans la chaleur pesante de la salle d'attente, à Lausanne une nuit. Ils sont là, 20 ou 30, qui somnolent ou qui chantent pour passer leur ennui. Ils ne parlent pas mon langage, viennent d'Espagne ou d'Italie. C'est pas par plaisir qu'ils voyagent. Ils ont dans leur valise un trésor, trois chemises, un pantalon usé. Dehors, le froid, la bise, racle la pierre grise et le goudron du quai. Ils viennent bâtir nos barrages, nos ponts, nos autoroutes aussi. C'est pas par plaisir qu'ils voyagent. Leurs maisons, leurs familles, leurs garçons et leurs filles, ils ont dû les laisser. C'est la loi qui le dit, paraît, dans mon pays, il y a trop d'étrangers. Leur faudra du cœur à l'ouvrage, et puis apprendre à dire oui. C'est pas par plaisir qu'ils voyagent. Ce qu'ils sont, ce qu'ils pensent, ça n'a pas d'importance. On ne veut que leurs bras. Et tout ça est normal, et tout ça me fait mal. Ça se passe chez moi. Ils retrouveront leur village quand on ne voudra plus d'eux ici. C'est pas par plaisir qu'ils voyagent. C'est pas par plaisir qu'ils voyagent.
Michel Buller, disparu il y a trois semaines, auquel nous continuons à rendre hommage dans cette émission. Je précise, tiens, les deux dernières petites phrases, Christian ne viendra pas, il rêve, et donnez-moi l'adresse d'un nuage, j'ai un message pour lui, sont extraites d'un livre de Christian Bobin, poète disparu dans la semaine qui précède. Dessous de scène, magazine de créatures radiophoniques, eh bien, autour de la table, trois créatures, moustaches, cheveux gris ou lunettes. J'attends aussi l'arrivée d'Ariel, mais alors, dans l'ordre.
Je vois qu'il y a quand même une personne qui n'a ni moustache ni cheveux.
Mais j'ai des lunettes.
Mais des lunettes, oui.
Donc c'est Sophie, je suis revenue, ça fait un mois que je ne suis pas venue. Bonjour à tous.
Bonjour, c'est Michel. Bon, j'ai apporté une petite chronique de Alexandre Vialatre pour revenir aux choses que j'aime bien.
Vas-y. Mais moi j'ai quelques petites choses à vous lire, je rendrai aux femmes nomades et à quelques hommes nomades parisiens.
Voilà. Et j'ai pas dit oui, ce que j'allais faire aujourd'hui. J'ai parlé, bon, c'est la cinquième fois que je suis invitée. J'ai parlé de l'urgence de dire, l'empêchement, j'ai parlé de la solitude, du secret et des pulsions. Aujourd'hui, j'aimerais parler de sexualité et de violence. C'est deux concepts qui devraient, qui pourraient, je pense, être antinomiques dans un monde idéal, mais c'est pas le cas. Et donc j'ai exploré cette idée au travers de plusieurs textes.
Et nous aurons également nos petits cadeaux d'Evelyne et Jean-Marie sous forme de textes envoyés depuis le sud, où il fait peut-être un petit peu plus chaud que maintenant sur Paris. Alors, j'ai apporté un dé et je le lance pour savoir qui commence, mais comme je le lance et que je ne sais même pas où je l'ai laissé, vous choisissez vous-même.
Si vous voulez bien, je vais commencer. Donc, le premier extrait est tiré d'un livre que vous connaissez certainement qui s'appelle « J'irai cracher sur vos tombes » de Boris Vian, ou plutôt de Vernon Sullivan, qui est paru en 1946. Donc, pour rappel, Boris Vian se disait le traducteur d'un écrivain américain qui s'appelait Vernon Sullivan, mais c'était pour échapper à la censure, entre autres. Boris Vian, par la suite, a été condamné pour outrage aux bonnes mœurs. Mais la censure administrative, a priori, n'aurait pas été validée. Et donc, dans J'irai cracher sur vos tombes, il s'agit de... Ça se passe aux USA. Lee Anderson, c'est le protagoniste principal, qui dit « je ». Son frère noir a été assassiné et lynché pour sa couleur. Et Lee est métisse, il est blanc d'apparence. Et il veut se venger de la population raciste bourgeoise de l'époque qui ont tué son frère. Et pour ce faire, il décide de séduire des jeunes filles huppées blanches pour qu'elles portent en elles une personne noire. Donc c'est un livre très violent que j'ai lu enfant, qui m'avait beaucoup marqué, notamment une scène où il s'agit donc de Lou, la jeune fille qui a été séduite par Ali. On entend parler de Jean, qui est l'autre sœur de Lou, qu'il a aussi séduite, et de Dexter, leur ami, qui font tous les trois donc partie de la jeunesse bourgeoise et blanche et raciste. Je ne pouvais plus la voir bouger sans m'exciter de nouveau. J'essayais de continuer à conduire, mais, 10 miles plus loin, j'arrêtais la bagnole au bord de la route. Il faisait encore nuit. On sentait pourtant venir l'aube, et dans ce coin, il n'y avait pas de vent. Des bouquets d'arbres et des buissons. Nous avions traversé une ville, une demi-heure avant peut-être. Lorsque je serrai les freins, j'ai pris la bouteille et j'ai bu un coup, et puis je lui ai dit de descendre. Elle a ouvert la porte et a pris son sac, et je l'ai suivie. Elle allait vers les arbres et s'arrêta dès que nous y fûmes et me demanda une cigarette. Je les avais laissées dans l'auto, je lui ai dit de m'attendre. Elle commençait à fouiller dans son sac pour en trouver, mais j'étais déjà partie et je courus jusqu'à la voiture. Je pris aussi la bouteille. Elle était presque vide, mais il m'en restait d'autres dans le coffre arrière. Quand je suis revenue, j'avais du mal à marcher et j'ai commencé à me déboutonner avant d'arriver jusqu'à elle. À ce moment, j'ai vu l'éclair du coup de revolver, et juste au même moment, j'ai eu l'impression que mon coude gauche éclatait, mon bras est retombé le long de mon thorax. Si je n'avais pas été en train de m'arranger, je prenais le pruneau dans les poumons. Tout ça, je l'ai pensé en une seconde, la seconde d'après j'étais sur elle, et je lui tordais le poignet, et puis je lui ai appliqué un coup de poing sur la tempe, de toutes mes forces, parce qu'elle essayait de me mordre, mais j'étais mal placée, et je souffrais comme un damné. Elle a pris ça et s'est affaissée par terre sans bouger. Mais ça ne faisait pas encore mon affaire. J'ai ramassé le revolver et je l'ai mis dans ma poche. C'était seulement un 6.35 comme le mien, mais la garce avait visé juste. Je suis retournée à l'auto en courant. Je tenais mon bras gauche dans ma main droite et je devais grimacer comme un masque chinois. Mais j'étais tellement enragée que je me rendais compte à quel point j'avais mal. J'ai trouvé ce que je cherchais. De la corde, et je suis revenue. Lou commençait à remuer. Je n'avais qu'une main pour lui ficeler les bras, et j'ai eu du mal, mais quand ça a été fini, j'ai commencé à la gifler. Je lui ai arraché sa jupe de tailleur, et j'ai déchiré son pull, et je me suis remis à la gifler. J'avais dû la tenir avec mon genou pendant que j'enlevais ce sacré chandail, et je réussis seulement à ouvrir le devant. Il faisait un tout petit peu jour, une partie de son corps était juste dans l'ombre plus noire de l'arbre. À ce moment, elle a essayé de parler et elle m'a dit que je ne l'aurais pas et qu'elle venait de téléphoner à Dex de prévenir les flics et qu'elle pensait que j'étais une crapule depuis que j'avais commencé à parler de supprimer sa sœur. J'ai rigolé. Et puis, elle a fait aussi une espèce de sourire et je lui ai appliqué mon poing sur la mâchoire. Sa poitrine était froide et dure. Je lui ai demandé pourquoi elle m'avait tiré dessus et j'essayais de me maîtriser. Elle m'a dit que j'étais un sale nègre, que Dexter lui avait dit, et qu'elle était venue avec moi pour prévenir Jean, et qu'elle me haïssait comme jamais personne. J'ai rigolé encore. Ça battait dans ma poitrine comme un marteau de forge, et mes mains tremblaient, et mon bras gauche saignait dur. Je sentais le jus me couler le long de l'avant-bras. Alors, Je lui ai répondu que les Blancs avaient descendu mon frère et que ce serait plus dur à avoir, mais qu'elle, en tout cas, allait y passer, et j'ai refermé ma main sur un de ses seins jusqu'à ce qu'elle manque de s'évanouir, mais elle ne disait rien. Je l'ai giflée à mort. Elle a ouvert les yeux de nouveau. Le jour venait et je les voyais briller de larmes et de rage. Je me suis penchée sur elle. Je crois que je reniflais comme une espèce de bête et elle s'est mise à gueuler. Je l'ai mordue en plein entre les cuisses. J'avais la bouche remplie de ses poils noirs et durs. J'ai lâché un peu et puis j'ai repris plus bas, où c'était plus tendre. Je nageais dans son parfum, elle en avait jusque-là, et j'ai serré les dents. Je tâchais de lui mettre une main sur la bouche, mais elle gueulait comme un porc, des cris à vous donner la chair de poule. Alors j'ai serré les dents de toutes mes forces et je suis rentrée dedans. J'ai senti le sang me pisser dans la bouche et ses reins s'agiter malgré les cordes. J'avais la figure pleine de sang et j'ai reculé un peu sur les genoux. Jamais je n'ai entendu une femme crier comme ça. Tout d'un coup, je me suis rendu compte que tout partait dans mon slip. Ça m'a secouée comme jamais, mais j'ai eu peur que quelqu'un vienne.
Musique du film « J'irai cracher sur vos tombes », la musique est d'Alain Goraguer. On reste dans l'univers habituel de Boris Vian. Avec le film « J'irai cracher sur vos tombes », on s'était éloigné de l'univers de Boris Vian, en fait, puisque Boris lui-même n'avait pas trop apprécié le film. D'ailleurs, c'est lors de la projection du film qu'il a eu son accident final et fatal. Pour ma part, je me souviens d'avoir lu quelques Vernon Sullivan, effectivement, de Vian, dont on tuera tous les affreux, des trucs assez délirants, qui était un peu émoustillant sur certains passages. Je me souviens d'une simple citation aussi, comme quoi la première fois où le héros se retrouve à faire l'amour, il dit « c'est aussi bon qu'une glace au chocolat, sauf que c'est encore meilleur ». Une phrase de ce genre-là, j'avais trouvé ça génial, et je m'étais retrouvé, moi aussi, à lire « J'irai cracher sur vos tombes », à avoir quelques passages, c'est vrai, émoustillants, et... Je m'étais dit, c'est quand même pas celui-là qu'elle va nous lire. Eh ben si, le final, effectivement... Ariel est arrivée dans le studio, Elsa aussi.
Bonjour Nicolas.
Bonjour Nicolas.
Bonjour à tous. Eh bien, je reprends toujours la lecture de Yves Lecard, Lichens de Soleil, tout un petit recueil de poésie.
Et moi, j'alternerai entre les poèmes de Papillon et un poème sélectionné par Daniel Gélin. Et éventuellement, selon le temps imparti, un poème de Sergueï Essénine. Voilà.
Michel ?
Je vous lirai une petite chronique de, d'Alexandre Vialat. Dès que j'aurai sélectionné celle-ci, dans peu de temps, j'espère.
J'y vais alors ?
Eh ben vas-y.
J'y vais ?
On est à table ouverte, on y va comme ça.
Mais je rendrai hommage à deux inconnus qui ont 30 ans de rue, chacun. Le Rouquin, qui toute sa vie a parcouru le métro en chantant Brassens. Et Abdel, qui est né dans les bidonvilles de Nanterre et qui a résisté jusqu'à ce jour. Ce matin, ça m'a appris, j'ai dit pourquoi pas leur rendre hommage, et surtout aussi aux nomades, aux femmes nomades du Tibet, de la Mongolie intérieure. Et ça, les grands froids, croyez-moi, c'est quelque chose. Si les silences te causent, réponds-leur en secret. Brille, se métamorphose la mort lente qui te compte. Ce que tu n'as pas su faire et dire, et pourtant dans le jardin des lunes, quelques fleurs s'ouvrent, mélodie d'un bonheur. Moins 25, le Keras Hautes-Alpes, décembre 1986. Écureuils et quelques oiseaux blottis avec moi pour l'errance d'être bien là. Voilà. Petite chose.
Il m'avait promis, tu verras, ça va être beau. T'as bien raison, hein, Gilles. C'est quoi, c'est des...
C'est une chanteuse nomade de la Mongolie intérieure. Et puis, elle retrace tout son parcours de son enfance. Elle, à l'encontre de ses parents, elle a voulu devenir musicienne et chanteuse. Alors, elle s'est retrouvée à Shanghai avec tous les dialectes. Elle est devenue chanteuse. Bon, voilà, c'était une voix errante. Les nomades de la Mongolie intérieure, voilà. Voilà, moi j'ai dit, il faudrait que j'amène ça un jour ici, quoi. Ça fait du bien d'entendre des voix aussi pures, aussi belles. Voilà.
Ariel ?
Oui.
Eh ben, on dirait que je fais l'appel.
On va continuer avec les femmes. La femme d'Écouse. Comme une église en anagramme, ton prénom flotte en oriflamme, synonymable du mot femme, 343 femmes, et sans doute bien davantage. C'est une église au sens premier, une assemblée de citoyens, une assemblée de races humaines, une assemblée d'hommes et de femmes, même projet, même programme, même passion, même raison. Tu défendais toutes les causes qui causent de l'humanité avec un grand H, un grand F, humanité rimant avec féminité. Tu défendais toutes les causes qui causent problème à certains, malgré leur légitimité. Tu défendais toutes les causes qui sont l'écho de l'injustice. Toutes les victimes du monde, encore bancales, qui calent, recalent, décalent demain. Comme une église en anagramme, ton prénom brandit l'oriflamme. Des droits de l'homme et de la femme, 343 femmes, 343 salopes qui s'anagramment en opale. Comme des pierres précieuses, vous êtes fiers, précieuses. Nous sommes vos frères, précieuse solidarité, fièrement sœurs de tout humain, sororalement fraternelle, et en frère, je vous salue. Comme une église en anagramme, ton prénom a tracé la trame de ton projet, de ton programme, notre progrès, notre proclame, qui fait que de la femme, une femme, 343 femmes, et sans doute bien davantage. Cette église-là, j'y adhère. C'est un monument qui fédère et qui fait d'elle un monument. Cette église qui s'anagramme en ton prénom qui est symbole et qui est symbiose. Gisèle.
Je la croise tous les jours dans l'escalier. La fille du quatrième bâtiment C. Elle dit toujours bonjour, la tête baissée. Parfois je l'entends chanter sous mon parquet. Elle vit pas seule, le soir il rentre. S'il fait la gueule, elle reste souriante. Quand il passe la porte, elle a le cœur qui bat. Au début il l'aimait, maintenant il la bat. Elle met du make-up sur ses yeux bleus, du fard à jour pour cacher ses bleus. Parfois je l'entends crier sous mon parquet. La fille du quatrième bâtiment C. Parquet, j'entends lui dire de la fermer. Mais putain, tu vas la fermer, tu sers à rien. Pas chialer, t'es bonne à rien. Tu fais pitié, regarde-toi, t'es même plus bonne à regarder. À qui tu parles quand je suis pas là? Tu sais que c'est ça qui me rend malade. Et me dis pas que c'est un pote à toi. Vas-y, dis-moi ce qui se casse. Arrête de dire que j'ai trop bu. Si c'est toi qui me pousse à bout, oui, je sais que tu m'aimes plus. Je sais que tu veux plus de nous. Pourtant, c'était beau la vie à deux. Dans les films où les gens sont amoureux. Ça fait 100 fois qu'il s'excuse pour la dernière fois. Ça fait 100 fois qu'elle le croit jusqu'à la prochaine fois. Du silence sous mon parquet, en bas du quatrième bâtiment C. Ce soir j'entends les sirènes chanter.
Suzanne, sur un album sorti tout récemment, La fille du quatrième étage, sur les violences conjugales. Ça fait 100 fois qu'il s'excuse comme à la dernière, ça fait 100 fois qu'elle le croit jusqu'à la prochaine fois. Radio Libertaire de Soutzène, Michel, tu as fait ton choix?
Voilà, une petite... Où allons-nous, ça s'appelle. C'était le 11 octobre 55. Où allons-nous? Si j'en crois les affiches, nous allons aux galeries du progrès, réunies, parce qu'on en revient comblé d'acquisitions qui sont autant de cadeaux d'un marchand philanthrope. Ou chez Dupont, parce qu'il habille mieux. Mais enfin, les affiches ne se proposent pas de répondre à l'angoisse humaine, cherchons ailleurs. Où allons-nous? Hugo pensait que nous allions vers la fraternité des peuples et vers la paix universelle. Veuillot, vers la domination du moujik et le cheval du cosaque qui boit dans la Seine. Hugo passe pour un penseur, pour un prophète, Veuillot pour un sectaire borné. Mais peut-être allons-nous vers les deux en même temps. La coexistence prouve que la guerre et l'état de paix peuvent fort bien coexister pacifiquement. Où allons-nous? Ma grand-mère en était fort curieuse. Elle se le demandait souvent. En même temps, elle levait les deux bras vers le ciel. Ensuite, elle hochait la tête et revenait soulagée de l'abîme entrevu. Car elle se rejetait dans la conversation avec une passion décuplée. Au besoin, pour se soutenir un peu après des visions si tragiques, elle prenait une pastille Valda ou acceptait un doigt de Porto, si elle se trouvait en visite. 20 fois par jour, elle s'interrogeait ainsi. 20 fois par jour, elle montait à sa tour, inspectait l'horizon, découvrait des ténèbres où se perpétraient des catastrophes et revenait à ses occupations d'une âme égale et même rassénérée. Elle vécut à la proue de notre civilisation, à l'affût de tous les récifs, comme une sentinelle avancée et généralement pessimiste. C'était plus beau quand elle avait le chapeau à plumes, parce qu'en hochant la tête, elle était obligée de hocher également les plumes, ce qui amplifiait et magnifiait l'oscillation. On nous dit que l'angoisse humaine se balançait dans le vent du soir comme un arbre exotique aux couleurs éclatantes. C'était bien plus majestueux. Frivole cerveau, je n'en avais cure. Son angoisse me laissait indemne et ses abîmes ne me donnaient aucun vertige. D'ailleurs, sa santé me rassurait. Et si elle avait été réellement bouleversée, sa capacité d'émotion n'aurait pu suffire à tant de choses. Elle se demandait où nous allions à propos de tout. Du bourreau d'enfants, de l'emprunt russe, des œufs pas frais, de la livre de beurre qui venait d'augmenter de 2 sous. Où allons-nous? Les clients du café du commerce se le demandent comme ma grand-mère dans ma jeunesse, avec une éloquence aidée par les alcools. Les humoristes en riaient bien. Et pourtant, nous y sommes allés, et même plus loin qu'ils ne le disaient, sans le croire eux-mêmes. Nous n'y allons plus, nous en revenons. Où allons-nous? Le poids de la question dépend de la densité de celui qui la pose. Si M. Dupont demande de quoi s'agit-il, il se fait prendre pour un ahuri. Si c'est le maréchal Foch, c'est parole de grand homme. On lui en fait une auréole, il y a des banalités de deuxième classe et des banalités à galonner. Quand ma grand-mère se demandait où nous allions, ce n'était qu'une clause de style, un réflexe à la fois machinal et pompeux, une façon de dramatiser le sujet pour lutter contre l'engourdissement. Merci.
La vie s'écoule, la vie s'enfuit, les jours défilent, pas de l'ennui, partie des rouges, partie des gris, nos révolutions sont trahies. Partie des rouges, partie des gris, nos révolutions sont trahies. Le travail tue, le travail paie. Le temps s'achète au supermarché. Le temps payé ne revient plus. La jeunesse meurt de temps perdu. Le temps payé ne revient plus, la jeunesse meurt de temps perdu. Les yeux faits pour l'amour d'aimer sont le reflet d'un monde d'objets, sans rêve et sans réalité. Aux images nous sommes condamnés, sans rêve et sans réalité. aux images, nous sommes condamnés, les fusillés, les affamés. Viennent vers nous, du fond du passé, rien n'a changé, mais tout commence. Tu as mûri dans la violence. Rien n'a changé, et tout commence. Tu vas mûrir dans la violence. Brûler repères de curés, ni de marchands, de policiers. Au vent qui sème la tempête, se récolte les jours de fête. Au vent qui sème la tempête, se récolte les jours de fête. Les fusils sur nous dirigés, contre les chefs vont se retourner. Plus de dirigeants, plus d'État, pour profiter de nos combats. Plus de dirigeants, plus d'État, pour profiter de nos combats.
Un poème de Jacques Prévert, tiré de recueil, du recueil Histoire. Soyez polis. Couronné d'étincelles, un marchand de pierre à briquet élève la voix le soir dans les couloirs de la station Javel. Et ces grands écarts de langage déplaisent à la plupart des gens. Mais la brûlure de son regard les rappelle à de bons sentiments. « Soyez polis !» crie l'homme. « Soyez polis avec les aliments !» Soyez polis avec les éléments, avec les éléphants. Soyez polis avec les femmes et avec les enfants. Soyez polis avec les gars du bâtiment. Soyez polis avec le monde vivant. Il faut aussi être très poli avec la terre et avec le soleil. Il faut les remercier le matin en se réveillant. Il faut les remercier pour la chaleur, pour les arbres, pour les fruits, pour tout ce qui est bon à manger, pour tout ce qui est beau à regarder, à toucher. Il faut les remercier. Il ne faut pas les embêter, les critiquer. Ils savent ce qu'ils ont à faire, le soleil et la terre. Alors il faut les laisser faire. Ou bien ils sont capables de se fâcher, et puis après on est changé en courge, en melon d'eau ou en pierre à briquet. Et on est bien avancé. Le soleil est amoureux de la terre. La terre est amoureuse du soleil. Ça les regarde. C'est leur affaire. Et quand il y a des éclipses, il n'est pas prudent ni discret de les regarder au travers de sales petits morceaux de verre fumé. Ils se disputent. C'est des histoires personnelles. Mieux vaut ne pas s'en mêler. Parce que si on s'en mêle, on risque d'être changé en pomme de terre gelée ou en fer à friser. Le soleil aime la terre. La terre aime le soleil. C'est comme ça. Le reste ne nous regarde pas. La terre aime le soleil et elle tourne pour se faire admirer. Et le soleil la trouve belle et il brille sur elle. Et quand il est fatigué, il va se coucher et la lune se lève. La lune, c'est l'ancienne amoureuse du soleil. Mais elle a été jalouse et elle a été punie. Elle est devenue toute froide et elle sort seulement la nuit. Il faut aussi être très poli avec la lune. Ou sans ça, elle peut vous rendre un peu fou. Et elle peut aussi, si elle veut, vous changer en bonhomme de neige, en réverbère ou en bougie. En somme, pour résumer, deux points, ouvrez les guillemets. Il faut que tout le monde soit poli avec le monde. Ou alors il y a des guerres, des épidémies, des tremblements de terre, des paquets de mer. des coups de fusil. Et de grosses méchantes fourmis rouges qui viennent vous dévorer les pieds pendant qu'on dort la nuit. Jacques Prévert.
Et Evelyne Tran, pour ce qui est de l'addiction du texte. Radio Libertaire 89,4 MHz, qu'y a-t-il maintenant sous les yeux d'Elsa?
Son titre numéro 18. Alentour des idées, l'espace des gestes circoncis se perd dans le temps accidentel. L'équilibre des entités soutenues dans le mouvement inné ajoute à la mesure. Le renouveau du feu, lui, est vie, sans commencement ni fin. La participation membrée éclaire la circonférence plane à la recherche de la distance extérieure. L'histoire enceinte de perspective conserve les images vécues dans son orbite renouvelée. La vie, prise de forme, se perpétue dans le prolongement des inspirations et des expirations. Et l'individu, incarné dans ses expériences hermétiques, se trouve tronqué à la mesure des actes, point sur la ligne plane, se déplaçant dans la relativité séculaire. Donc, Papy Jean l'a écrit à Paris en novembre 52.
L'herbe est bien verte, les filles sont belles, toutes chantent à tenter. Souvent tu gagnes et se renverses les plaisirs consumés. Tu dois faire aux défaites.
Foutez six instruments ensemble, une superbe voix là-dessus, les instruments, alors avec une contrebasse, un violoncelle, de l'orgue, etc. C'est superbe. La voix, c'est celle d'Angelina Vismes, qu'on connaît plutôt dans des interprétations de Barbara, qui correspondent pleinement à sa tessiture, mais là, normalement, allez. Là, moi, quand je l'ai entendu, j'ai fait, mais attends, ça me dit quelque chose, cette chanson. Mais le fait est que, normalement, il faut prendre trois octaves plus bas la voix de celui qui a créé cette chanson. En anglais, Leonard Cohen, A Thousand Kisses Deep, une version ici absolument géniale. Moi, j'ai du mal parfois à voir les chansons de Leonard Cohen par d'autres, parce que cette voix d'outre-mort, ce machin qui remonte surtout sur les derniers enregistrements, mais là, oh, ça m'a laissé sur le cul. Allez, on retourne avec celle avec laquelle vous avez peut-être parfois voyagé dans le train, puisque quand vous êtes dans une gare et que vous appuyez sur un bouton pour avoir des histoires qui sortent en lecture de 2 minutes, 6 minutes ou 8 minutes pour le train, ben il y a des fois sa signature.
Alors je vais continuer avec dans mon thème de la violence et de la sexualité avec un extrait d'un livre qui s'appelle Les Noces Barbares, qui a été écrit par Yann Kefelek en 85. Ce livre a eu le prix Goncourt la même année. Le livre a été adapté au cinéma aussi, du coup, en 87. Yann Kefelek était écrivain et marin aussi. Donc, dans l'histoire de ce livre, c'est l'histoire de Ludovic qui est né du viol de sa maman par trois hommes et qui est élevé caché dans un grenier. La scène dont je vais parler, c'est la scène, bon, elle est presque insoutenable, hein, la scène du viol de la mère de Ludovic qui s'appelle Nicole et qui a 15 ans, par Will, qui est un pilote américain qu'elle vient de rencontrer, et deux de ses amis, dont Sam, qui est décrit comme un rouquin fils de pasteur, et un autre ami qui s'appelle Aldo, qui est décrit dans le livre comme un colosse bedonnant d'origine chilienne. Ils ont une vingtaine d'années. Donc, comme je l'ai dit, cette scène... pour moi, est insoutenable. La jeune fille est apprêtée, naïve, c'est encore une enfant. Et l'accent dans cette scène est mis sur l'amusement. Il s'agit ici, je pense, d'un jeu de pouvoir où le sexe est du pouvoir par la violence. « My friends », déclara Will. « C'est la fête, darling !» Il l'a mis debout. Nicole tombait sur place en gémissant. Sam la retint d'une main par la taille et de l'autre fouilla sous la robe avec un rire épais. Will empoigna les volants brodés, tira sauvagement de bas en haut, brisant la ceinture et faisant sauter les boutons. Les manches et le col restaient coincés. « Exactly like football » ricana-t-il. Et comme une peau de sol, il arracha la robe avec un feulement stupide et roula par terre. Il y eut un silence. Les trois hommes reluquaient leur proie tremblante et nue comme un butin chaudement gagné. Le soutien-gorge dégrafé pendait, une bretelle sectionnée, un des souliers noirs de maman était passé sous le lit. Le visage en pleurs, elle se tenait debout, recroquevillée, derrière ses bras en étoile. « Lovely !» dit Aldo d'une voix rauque. Et sa grosse main velue fit délicatement glisser le long du bras meurtri le lambeau de soutien-gorge offusquant la vue. « Lovely !» Il débouclait son ceinturon. « There !» dit-il à Sam en montrant la table. Il la viola parmi les cartes à jouer et les mégots. Elle, étendue, lui debout, et quand dans un réflexe elle se débattait, secouant la tête et cherchant à mordre, il s'enthousiasmait. « Yes, come on girl, come on !» Will, chaque fois qu'elle ouvrait la bouche, y versait du whisky. De temps à autre, il arrachait des mèches pour les regarder brûler. À tour de rôle, ils la profanèrent, se disputant le privilège de charcuter sa virginité. Aldo la sodomisa, tiraillant les cheveux blonds comme la crinière d'une jument rétive. Il dégoulinait. Son torse luisant portait une forêt de poils, où le crucifix d'or oscillait comme une pendule entre les clous noirs des seins, perdant de larges gouttes de sueur qui venaient s'écraser sur la fillette évanouie. Sam faisait le voyeur. Au début, sitôt que les deux autres se retiraient pour boire et souffler, il prenait la relève avec frénésie, puis, trop excité, il dut bientôt se contenter d'envier les agesseaux ravageurs du Chilien qui, toujours debout, s'amusait à soulever la table où il clouait l'adolescente et marchait ainsi dans la pièce. Plus nerveux, Will arrosait Nicole de bière et réclamait de la prendre à deux, « like a sandwich ». « Sleep, my baby !» fit Aldo pour finir. « We're tired !» En prenant Nicole à bras le corps, il la balança de loin sur le lit de camp. Puis, il ramassa les cartes éparpillées et, quand même un peu sonné, revint s'asseoir à table en rajustant son pantalon.
T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Tu oublieras, mon petit loup, ne pleure pas. Je t'amènerai sécher tes larmes au vent des quatre points cardinaux. Respirer la violette à Parme et les épices à Colombo. On verra le fleuve Amazone et la vallée des orchidées. Et les enfants qui se savonnent le ventre avec des fleurs coupées. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Tu oublieras, mon petit loup, ne pleure pas. Allons voir la terre d'Abraham, c'est encore plus beau qu'on le dit. Il y a des Van Gogh à Amsterdam qui ressemblent à des incendies. On goûtera les harengs crus et on boira du vin de Moselle. Je te raconterai le succès que j'ai eu un jour en jouant ce ganarelle. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Tu oublieras, mon petit loup, ne pleure pas. Je t'amènerai voir Liverpool et ses guirlandes de haddock et des pays où il y a des poules qui chantent aussi haut que les coqs. Tous les livres les plus beaux de Colette et de Marcel Aimé, ceux de Rabelais ou de Léoto, je suis sûr que tu vas les aimer. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Tu oublieras, mon petit loup, ne pleure pas. Je t'apprendrai à la Jamaïque la pêche de nuit au Lamparo. Et je t'emmènerai faire un pique-nique en haut du Kilimandjaro. Et tu grimperas sur mon dos pour voir le plafond de la Sixtine. On sera fasciné au Prado par les Goya ou les Ménines. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Tu oublieras, mon petit loup, ne pleure pas. Connais-tu en quadriphonie le dernier tube de Mahler et les planteurs de Virginie qui ne savent pas qu'il y a un hiver? On en a des choses à voir jusqu'à la Louisiane en fait, où y a des types qui ont tous les soirs du désespoir plein la trompette. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas, oublie-les, les petits cons qui t'ont fait ça. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas, je t'en supplie, mon petit loup, ne pleure pas. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas, j'oublierai, mon petit loup, ne pleure pas.
En 1979, sur la face B du disque, ou sur la face A, il y avait la chanson rigolote. Si vous voyez Estelle, dites-lui mes amis combien je suis fou d'elle. Ben, il y avait mon petit loup qui a fait un joli succès. On pouvait l'écouter comme ça en disant ben, c'est beau, il y a des belles images. Et puis, oublie pas mon petit loup, les petits cons qui t'ont fait ça. Chanson sur le viol.
Le chant des cygnes, c'est une alchimie d'une rencontre intérieure entre le film de la vie de la chanteuse Barbara, son metteur en scène Mathieu Alric, et le peintre de nature morte, Gilles Satsky. Dans le tambour d'un fleuve, perle de larmes à la lune, perle de cœur à la brume, scintille d'une odeur suave le goût des mots et des couleurs. Alors s'illumine l'arbre, prend en feu la forêt, reboisant du regard les souffles parfumés de l'âme, tout se dénude à l'aube, mais ne meurt et ne vit que le chant des roses. Au beau jardin d'aimer qui partout se pose et revient demain, les mains qui vers vous composent.
Törsün nasrhan beymin, Ali var git olda gajari susutaya. Aa uetin kovar sıra hadi, haram gühisit kileri çalgan kerdaya. Rıgan tenegere talda suga, under delikin kahmehi barku. Çiçeğin yasına hane geçiyorden sana hacat, bulgeri doğaran delgen sonu kudya. Sen min dolgun geri dön, 지나고 산나하오제랑 제지테니 나하오제랑 제지테니
Le bois de Santal, riche, sensuel et rond, les richesses de l'âme, sensuelles, de suite, arrondies dans les coins, elles happent le bonheur. Réfugie la jeunesse, rencontre la poursuite, hume l'aube du drame, détruise l'odeur des sens, déshabille le mal, décore la tristesse, caresse le parfum, encombre la pensée, déprime la montagne, imprime les eaux vents, supprime les faiblesses. Ce comprimé d'amour, cette halte en forêt, ce lit de feuilles brunes, cette langueur d'avant, son inique tourment, son tragique soupir, son insolite cri, ta profondeur sublime, ta gloire des abîmes, et la peur se déchire. Tes travers en emblème, tes recours en problème, tes attirances blêmes, nos confits éternels, nos sangsues maternelles, nos housses originelles, vos sales obéissances, vos sèches reviviscences, vos chastes tolérances d'une passion licite, sans entrave tacite. Le plaisir ressuscite.
Vous écoutez toujours Radio Libertaire sur 89,4 MHz. D'ailleurs, sur quelle autre antenne que Radio Libertaire pourriez-vous avoir comme ça un choix de textes doux, violents, militants, de toutes sortes? Je ne sais pas, mais en tout cas, nous, on continue. Ariel?
Ok. Encore un poème de Yves Le Carre pour les femmes. Là, il s'est adressé à mes filles femmes. Elle. La liberté portée par son L majuscule, guidée par la colombe aux ailes majestueuses sur la planète Terre, cette autre magistrale et féminine idole escorte les cœurs des déesses qui ont pour nom fraternité, égalité, vérité, raison, paix ou encore résistance. Ces espèces de phénomènes féminins, tout comme celles innombrables, inconnues, discrètes, oubliées, niées trop souvent mais heureusement obstinées, acharnées, résolues, celles, c'est elles, majuscules, majestueuses, magistrale, magicienne, qui, elles aussi, résistèrent, résistent, résisteront, existent.
Contrafuego, le répertoire de notre dernier album, qui montre le chemin qu'on a fait avec les fleurs ces 14 dernières années. Et on a aussi présenté Lies, c'est le premier morceau de la nouvelle série des compositions qui vont faire partie du prochain album. Pour cette série de morceaux, je me suis inspirée par Steve Reich, compositeur américain qui m'a marqué très tôt. En fait, cette pièce-là, elle a été inspirée par une pièce qui s'appelle Different Trains. Et moi, ce que je suis en train d'écrire, c'est une pièce qui s'appelle Different Lies. Et celle-là, c'est la première qui parle de toutes les mensonges liés à la guerre. Donc, tout est joué autour de la répétition un peu de l'angoisse et de l'énervement.
Eh bien voilà, nous en saurons plus la semaine prochaine. C'est Andrea Marsili qui sera notre invité, amené dans ce studio par Laurent Garibian, qui nous a prévu théoriquement deux plateaux consacrés plutôt au tango, mais pour aujourd'hui, l'invité qu'il avait concocté et prévu est excusé. Mais la semaine prochaine, dans ce studio en compagnie de Laurent, nous aurons Andrea Marsili. Dans l'immédiat, dans 20 minutes, ça sera Bulle Noire, magazine du Polar. Dans l'immédiat, encore des textes, c'est qui ?
Michel. Sophie ?
J'en ai encore, oui. Je vais continuer. Donc là, cette fois, c'est un extrait d'un livre de Laila Slimani, qui a écrit Dans les jardins de l'ogre. Ce livre est paru en 2014. Il a eu le prix littéraire de la Mamounia en 2015. Donc il s'agit d'Adèle, qui est une jeune femme qui a des pulsions sexuelles incontrôlables. Et elle trompe son mari de façon compulsive. Dans la scène que j'ai choisie, elle se rappelle d'un moment de sa vie où elle était en vacances, adolescente. Et donc, le thème qui est abordé ici, je crois, est le thème de la violence intériorisée. Dans cet extrait, l'idée que je me suis posée, c'est pourquoi l'idée de la contrainte suscite-t-elle du désir chez notre protagoniste ? Et qu'est-ce que cela dit de notre société ? Le risque, je crois, à soulever des questions ces questions pourraient être utilisées pour excuser des actes barbares et criminels que sont les viols. Donc je pense que c'est intéressant de réfléchir à ce que suscite ce texte. Adèle aimait traîner seule dans l'appartement vide. Elle fumait des cigarettes à la menthe sur le balcon. Elle dansait au milieu du salon et fouillait dans les tiroirs. Un après-midi, elle avait trouvé une édition de « L'insoutenable légèreté de l'être » qui devait appartenir au propriétaire. Ses parents ne lisaient pas ce genre de livre. Ses parents ne lisaient pas de livre du tout. Elle avait tourné les pages au hasard et était tombée sur une scène qui l'avait troublée aux larmes. Les mots résonnaient jusque dans son ventre. Un courant électrique la parcourait à chaque phrase. Elle serrait la mâchoire, contractait son sexe. Pour la première fois de sa vie, elle avait eu envie de se toucher. Elle avait attrapé les pans de sa culotte et l'avait remonté jusqu'à ce que le tissu lui brûle le sexe. Donc le premier passage, qui est entre guillemets, il la déshabillait et pendant ce temps, elle était presque inerte. Quand il l'embrassa, ses lèvres ne répondirent pas. Puis, elle s'aperçut soudain que son sexe était humide et elle en fut consternée. Elle remettait le livre à sa place dans la petite commode du salon et la nuit, elle y pensait. Elle essayait de se souvenir des mots exacts, de retrouver la musique, puis elle n'y tenait plus. Elle se levait pour ouvrir le tiroir, regarder la couverture jaune et sentir sous sa robe légère s'éveiller des sensations inconnues. Elle osait à peine le prendre. Elle n'avait pas remarqué, n'avait pas marqué la page, n'avait laissé aucune trace de son passage au milieu de cette histoire. Mais à chaque fois, elle finissait par retrouver le chapitre qui l'émouvait tellement. Donc le deuxième passage, elle sentait son excitation, qui était d'autant plus grande qu'elle était excitée contre son gré. Déjà, son âme consentait secrètement à tout ce qui était en train de se passer, mais elle savait aussi que pour prolonger cette grande excitation, son acquiescement devait rester tacite. Si elle avait dit oui à voix haute, si elle avait accepté de participer de plein gré à la scène d'amour, l'excitation serait retombée. Car ce qui excitait l'âme, c'était justement d'être trahie par le corps qui agissait contre sa volonté et d'assister à cette trahison. Il retira son slip. Maintenant, elle était complètement nue.
Merci.
Ça, c'est l'histoire de
Melody Nelson.
Qu'à part moi-même, personne n'a jamais pris dans ses bras. Ça vous étonne, mais c'est comme ça. Elle avait de l'amour pour vous.
Melody Nelson.
Mais elle en avait des tonnes. Mais ses jours étaient comptés. 14 automnes et 15 étés. Un petit animal, tout ça.
Melody Nelson.
Une adorable garçonne. Et si délicieux enfant que je n'ai que. N'est qu'un instant. Oh, ma mélodie. Ma
mélodie Nelson.
Aimable petite canne. Tu étais la condition sine qua non de ma raison.
Ça va, on est resté chaste avec Melody Nelson. J'aurais pu aller chercher les variations de Marie-Lou, mais quand même.
Alors, Daniel Gélin a sélectionné un poème de Loïs Masson, Poème des camarades. Je veux inventer une respiration avec de l'argile tendre et les poumons des fougères. Je prends toute vie à mon compte. Ô mes frères, je ramènerai l'infini sur les canaux bas de votre misère, où vos morts dérivent au fil des chaînes lentement sous les palétuviers. J'ai fait route à tâtons du fond des matins brumeux. Des chants de bruyère douce et de genêt ondulent dans mes mains devant mon Dieu. Je suis barré de fleuves et de rizières et de hauts lieux couronnés d'arsenaux. J'entends tomber les guerres au puits du silence une à une. Ma poitrine soulève les haons du bûcheron et l'oiseau marin sous le ventre de la dune et la prière du prêtre au pied vaporeux de ses saintes. Rien n'est que mon sang n'enlace au temple sonnant de mes veines. J'écoute en même temps et dans le même étincellement de mon âme. La brise lente effleurée le rêve des cressonnières et l'homme libre qu'on condamne. Je parle avec le naft et la semence. Écoutez, je bats l'unisson des fortes racines et de la gorge bleue des lacs. Je trace une ligne de toutes les sèves à mon cœur et de tous les souffles jusqu'à moi. Toutes les routes me traversent de gauche à droite avec les pas de leurs chevaux et leurs charrois.
tous les rails avec leurs trains. Je me saoule de chaque chose et je supère immensément chaque matin. J'écrase entre les meules de mes mains le seigle et l'avoine des coteaux. Sous mon cou, des ceps joyeux trouent la terre de mes épaules. Je vais parmi vous avec l'amitié de mon visage. Toutes les étoiles suivent le cours de mon sang parce que j'aime. Je vais parmi vous, je m'assois à votre table et Jésus-Christ, pour nous, refait sa scène. Mes camarades, j'ai marché avec l'ange roux des moissons, des soirs pleins et des semaines, et avec l'ange aux ailes de maïs qui descend les plaines au printemps avec le duvet des colombes. Mon couteau de chasseur dort dans un fourreau de graines à main ceinture, j'ai des vergers dans mes fontes. Mes poings sont enrobés dans le pollen des lys sauvages qui flottent au dos rude des monts, et dans ma tête des forges battent leurs serpents d'étincelles. Tant est grand Dieu en moi que mon ombre couvre le ciel comme un bouc couvre une chèvre. Je sais aussi bien parler à l'enfant que me dresser contre le tyran avec mes os de schiste et de quartz. Je suis descendu avec l'oiseau et la rivière et la saison en un long voyage. Je m'attarde devant vos maisons. Une colonne de pluie et une colonne de colère sont en moi et roulent dans mes reins. Je fais pleuvoir l'une et tonner l'autre, selon que vous avez besoin. Oh, mes camarades, je suis venu vous apprendre un chant de joie, appuyé sur l'épaule de ma femme, et un chant de combat avec mes mains trempées dans la poudre des plaies du Christ, et que je ferai exploser devant nous lorsque nous nous enfoncerons sur les pistes dures de la lumière. Donc, poème extrait du recueil « Délivrez-nous du mal ». Édition Segers.
Merci.
Thank you.
Fleur Noire d'Andrea Marsili. Dans 5 minutes, ça sera Bulle Noire sur l'antenne de Radio Libertaire et les poèmes classiques se terminaient par un envoi. Envoi, prince, n'enquérez de semaine où elles sont nées de 7 ans que beauté eut plus. Eh bien là, pour l'envoi, qui est-ce qui se dévoue pour les 5 dernières minutes?
C'est très court. C'est très très court. C'est poète japonaise. Là, c'est très très court. Et j'aime beaucoup la poésie des poétesses femme japonaise. Été de la Saint-Martin, que j'aimerais montrer la mer à mon fœtus. Parmi les parfums des oliviers odorants, la nuit intense. Mon nom de jeune fille, semblable à une dépouille de cigale. Je t'attendais, il y a encore un instant, avec une ombrelle blanche.
J'ai un poème très court aussi, si vous voulez. Que j'avais écrit il y a une quinzaine d'années. C'est une petite fille qui parle et ça s'appelle Petite souris. Tous les matins, j'ai peur de papa et maman au lit. À chaque fois, je me dis que c'est bientôt fini, ces bruits. C'est vraiment dégueulasse, mais il faut bien que je me fasse au cri. Elle n'a pas l'air d'aimer, et lui de s'amuser. C'est dit. Je suis tout à côté, ma chambre est très très près de leur vie. Tous les matins j'écoute, et dans mon lit je ne fais pas de bruit.
Oui, un très court aussi de post-it. Qu'on nous métamorphose. Qu'on nous mette à Formose, qu'on nous mette en psychose, qu'on nous mette en bière ou en toute autre chose, qu'on nous mette au rancard, qu'on nous mette au placard, qu'on nous carre en ramette, qu'on nous carabistouille, qu'on nous gratouille, qu'on nous chatouille, qu'on nous touille, qu'on nous débarbouille, nous dérouille ou nous écrabouille, qu'on nous carambole, qu'on nous carmagnole, qu'on nous patafiole, qu'on nous patafixe, qu'on nous catalogue, qu'on nous catafalque ou qu'on nous défalque, qu'on nous Mathusalem, qu'on nous mute à Salem, qu'on nous mette au musée ou même en mausolée, où nos mots isolés deviennent muses ailées plutôt que muselées, qu'on nous mette à l'index, au pouce ou au majeur, qu'on nous mette en indice, en indisposition, en disquette, en disque dur ou en discours, qu'on nous mette au rencard, qu'on nous carre en ramette, qu'on nous carabistouille, qu'on nous caramélise, qu'on nous ridiculise, qu'on nous métabolise ou qu'on nous diabolise, sacralise, canalise, banalise, analyse, 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 mais qu'on nous lise, bon sang, qu'on nous lise. Yves Lecard.